Bonjour Pierre-Laurent.
Bonjour.
La marée humaine, c'était un petit coefficient de marée, a dit le Premier ministre Édouard Philippe après la journée de mobilisation de samedi. Environ 32 000 manifestants à Paris. Faut-il parler d'un échec ?
Non, il y a pas du tout. C'était un succès. Il y avait 280 000 manifestants en France dans 190 rassemblements. C'est une nouvelle étape de mobilisation, pas encore suffisante probablement pour faire changer de cap le gouvernement. Mais nous sommes de toute façon entrés dans une période de confrontation durable entre ceux qui veulent des réponses sociales à la situation du pays et ceux qui, comme Emmanuel Macron, continuent d'avancer au seul service de la finance. Donc il faut continuer à trouver les moyens d'engager davantage de citoyens et de salariés français dans l'action. Il faut leur donner confiance et nous travaillons à cela. La journée de la marée humaine a été une étape supplémentaire et utile.
Vous trouvez que l'expression est appropriée, marée humaine, compte tenu des chiffres dont on parle ?
Une marée, elle peut être...
Elle
aurait pu être plus forte. Moi, je souhaite évidemment qu'elle devienne progressivement plus forte. Mais c'est l'objectif que nous annonçons. Parce que quand on a un pouvoir aussi arrogant, qui n'écoute absolument personne, qui n'écoute pas les cheminots, pas les étudiants, pas les gens de banlieue, qui renvoient dans les cordes aussi bien les syndicats que les parlementaires, et qui s'enfoncent dans un exercice monarchique du pouvoir, eh bien il faut trouver les moyens d'unir énormément de monde dans le pays pour dire stop à cette manière de gouverner et pour faire changer de rail la politique gouvernementale. Donc nous allons poursuivre nos efforts.
Oui, mais vous parlez d'un gouvernement qui n'écoute pas, mais c'est un gouvernement qui mène sa politique. Si il stoppait immédiatement toutes les réformes qu'il entreprend dès qu'il y a une contestation, on s'en étonnerait aussi.
Oui, mais on voit un gouvernement... quand il demande un rapport à Jean-Louis Borloo, qui n'est pas un opposant de la première heure, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et qu'il n'est pas un grand révolutionnaire. Que fait le président de la République ? Il met au panier son rapport aussitôt écrit. Quand, il y a quelques jours, tous les groupes parlementaires veulent voter un projet de revalorisation des retraites agricoles que nous proposons au Parlement, que fait le gouvernement ? Il empêche, avec des moyens qui ne devraient d'ailleurs pas figurer dans les règlements du Parlement, mais il empêche l'adoption de cette mesure. Donc on a bien un gouvernement qui ne mène pas seulement sa politique, comme vous dites, mais qui gouverne seul contre un nombre croissant d'organisations, de citoyens, de salariés dans le pays. Et c'est un exercice très autoritaire et très solitaire du pouvoir, et c'est extrêmement inquiétant.
Puisque vous l'avez évoqué, le rapport Borloo, vous regrettez que le président de la République l'ait en quelque sorte enterré pour vous ? C'était un rapport qu'il aurait fallu suivre ?
Bien sûr, c'est la décision du président de la République de ne pas suivre les recommandations de ce rapport et de ne pas engager un effort très important de mise à niveau des moyens de la République dans ces banlieues est absolument dramatique. C'est 15 millions de Français, ce sont les quartiers où le pays est le plus jeune, donc c'est là au contraire qu'on devrait investir. Or, on ne rattrape même pas la situation dans tous les domaines, et tous les rapports l'attestent. Dans tous les domaines, ces quartiers sont défavorisés, c'est-à-dire ont moins de moyens alors qu'ils devraient en avoir davantage pour miser sur l'avenir de cette jeunesse.
Emmanuel Macron a enterré ce rapport avec cette formule dont on a beaucoup parlé, sur les deux mâles blancs qui s'échangent un rapport. Est-ce que ce propos vous a dérangé ?
Mais surtout, ça fait partie des formules méprisantes que le président de la République commence à accumuler. Nous avions une affiche dans la manifestation de samedi qui disait « c'est pas le président de la République, Macron, c'est le méprisant de la République ». Et effectivement, les propos méprisants à l'égard de beaucoup de catégories de la population se multiplient dangereusement. Et je répète, c'est une manière de gouverner qui est extrêmement prétentieuse et assez ignorante des richesses qui existent dans la République.
Pour en revenir donc à la marée humaine, les organisateurs se retrouvent ce soir pour évoquer la suite du mouvement. Qu'est-ce que vous espérez maintenant ?
Je crois que de toute façon, nous n'avons pas le choix, j'ai envie de dire. À part l'autre choix, c'est subir.
Ouais.
Subir une politique qui n'est pas en train de régler les problèmes du pays, mais en train de les aggraver. Parce que les inégalités qui existent dans le pays vont croître avec les politiques mises en œuvre par Macron. On le voit avec Parcoursup, on nous avait promis une loi d'aide à la réussite et à l'orientation des étudiants. Parcoursup se révèle pour ce qu'il est, un moyen, un outil de tri des étudiants. Et c'est évidemment pas cela dont nous avons besoin. Donc nous allons continuer. Il faut chercher à conforter les mobilisations engagées.
Mais est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles formes aussi? Parce que est-ce que vous pouvez faire seulement comme ça des rassemblements?
Mais la manifestation, excusez-moi, la manifestation de samedi était aussi une nouvelle forme qui réunissait des forces différentes en cherchant à respecter leur rôle.
Oui, mais ça reste un défilé dans la rue avec des banderoles.
Non, mais c'est un signal envoyé pour la suite, et je pense qu'il y a dans les mobilisations en cours, dans beaucoup de domaines, la recherche de moyens d'action diversifiés. De toute façon, je répète, c'est soit subir, soit continuer à travailler comme nous le faisons, à inverser la logique actuelle, en continuant à faire des propositions. Nous allons engager à partir de demain le débat sur la loi ferroviaire au Sénat. Nous déposons 100 amendements qui seront remplis de propositions. Nous verrons si le gouvernement les écoute.
Je voudrais qu'on évoque l'Italie, Pierre-Laurent, l'Italie qui plonge à nouveau dans la crise politique. Giuseppe Conte, qui avait été chargé de former le gouvernement, a jeté l'éponge après le refus du président de la République de valider la nomination du ministre de l'économie, jugé trop eurosceptique, en particulier sur la question de la monnaie unique. Le président italien devrait aujourd'hui nommer Carlo Cottarelli, une figure de l'austérité budgétaire italienne, pour diriger un gouvernement technique. Qu'est-ce que vous inspire cette situation ?
Une grande inquiétude, parce que l'Italie est en quelque sorte le symbole de l'étau, du piège dans lequel on essaye d'enfermer le débat européen. Soit d'un côté, les défenseurs de la fuite en avant libérale, c'est la finance d'abord dans toutes les circonstances, soit des forces nationalistes, xénophobes, qui disent dans chacun de leurs pays les Italiens d'abord, les Danois d'abord, les Français d'abord, et qui en vérité tournent le dos aux exigences sociales.
Mais qui disent en même temps non à l'austérité.
Et qu'il faut faire émerger, oui mais non, qui disent peut-être l'austérité pour les autres, mais pas pour une partie de la population européenne. Or moi je pense que dans toute l'Europe, dans les différents pays européens, nous devons travailler avec les forces de gauche à faire émerger un autre projet qui dise en fait l'humain d'abord, le progrès social d'abord pour tous les Européens. Et c'est possible, puisque nous sommes dans un des continents les plus riches du monde, nous pouvons construire des politiques de solidarité en Europe. Mais il faut refuser ce piège dans lequel on est en train de nous enfermer.
Les deux leaders de la coalition du mouvement 5 étoiles et de la Ligue sont foudrage. Ils disent, pour Luigi Di Maio, donc mouvement 5 étoiles, disons-le clairement, il est inutile d'aller voter puisque les gouvernements, ce sont les agences de notation, les lobbies financiers et bancaires qui les font. Et Matteo Salvini, le patron de la Ligue, dit lui, l'Italie n'est pas un pays libre, un pays occupé financièrement par les Allemands, par les Français et par les bureaucrates de Bruxelles. Vous trouvez qu'il y a du vrai dans ces commentaires ?
Ils ajoutent par les migrants aussi. Hein, parce que, en vérité, je le répète, c'est ce piège-là que moi je refuse. D'un côté, l'autoritarisme financier de la Commission de Bruxelles et des gouvernements européens qui veulent maintenir un carcan financier terrible sur les peuples. Et de l'autre côté, une réponse à ça qui serait une réponse d'égoïsme, voire d'autoritarisme, parce que des formations politiques commencent à dire ça sert à rien d'aller voter, c'est pour préparer notamment la Lega en Italie, des gouvernements eux aussi très autoritaires. Eh bien, il faut opposer à ça une réponse sociale et démocratique, et c'est ce que nous allons essayer de construire pour notre part en France pour les élections européennes.
Merci Pierre-Laurent, bonne journée.
Merci à vous.